Vous écoutez RTL.
Merci Denis Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Emmaüs m'a redonné de l'espoir, Emmaüs m'a sauvé. Combien de compagnons peuvent ainsi remercier l'association fondée il y a 60 ans par l'abbé Pierre pour parler de ces hommes et de ces femmes, mais aussi des objets qu'ils récupèrent. Nous allons partager avec vous l'expérience de notre invitée, Lise Beninka, qui a choisi de vivre le quotidien d'un centre Emmaüs pendant 9 mois à Paris. Bonsoir, vous êtes écrivain. Vous avez voulu raconter l'histoire de ces objets qui sont donnés, abandonnés, revitalisés et qui, pour beaucoup, reprennent vie grâce aux compagnons d'Emmaüs. D'où vous est venue cette idée ?
Alors, mon aventure avec Emmaüs a commencé le jour où j'ai décidé de participer à un programme de résidence d'écrivains qui est organisé par la région Île-de-France. Et pour y participer, il fallait que chaque auteur monte un partenariat avec le lieu d'accueil de son choix. Alors généralement, les écrivains choisissent d'aller dans des médiathèques, des théâtres ou des librairies, enfin des lieux où la littérature est déjà présente et où il y a un public préparé à cela. Et moi, j'avais envie d'apporter un sens supplémentaire à cette démarche et d'aller dans un lieu, pour moi, étranger, de me plonger dans un univers qui m'était assez éloigné, et puis d'aller dans un lieu aussi qui avait un sens humainement pour moi. Mmh. Et enfin, un lieu qui stimule aussi mon imaginaire en tant qu'écrivain et qui m'accompagne dans une démarche d'écriture.
Mais vous étiez déjà rentrée dans un centre Emmaüs ?
Oui, en fait, quand j'étais étudiante en lettres, j'achetais tous mes livres d'occasion chez Emmaüs. J'habitais à Saint-Étienne à l'époque et c'était dans un vieil hangar près de la gare. Et donc, non seulement des livres, mais aussi des objets en tant que lectrice de Georges Perec, qui a quand même écrit Les Choses. Voilà, c'est un univers qui me parlait et je me suis dit de m'y plonger, ça a du sens pour moi, pour mon écriture, mais aussi pour des rencontres avec un nouvel univers.
Mmh. Et en parlant justement des choses, des objets, évidemment, vous parlez des hommes et des femmes.
Oui. En fait, j'y suis allée dans l'idée de faire parler les objets. Comme vous dites, comme c'est des objets qui sont passés de main en main avant d'arriver dans les cartons d'Emmaüs, je me suis dit, c'est des objets qui ont des histoires à raconter. Mais forcément, les histoires sont les objets qui racontent, mais parce qu'il y a des gens derrière. Et donc, très vite, je me suis installée un peu dans une posture d'écrivain public, là, chez Emmaüs, dans l'espace de vente, en disant ben voilà, je me propose de collecter les histoires que vous pourriez avoir envie de me conter au sujet des objets. Aussi bien du côté des donateurs qui viennent apporter des objets de chez eux, que des collecteurs qui les reçoivent. Parce qu'on a un ressenti quand on nous donne un objet. Par exemple, une femme qui apporte une poupée et qui la donne en racontant que c'était sa poupée d'enfance. Bon, ça provoque des émotions, des choses. Et forcément, les histoires s'écrivaient d'elles-mêmes autour de ça.
Alors, vous allez nous raconter l'histoire d'un objet assez vite, mais pour bien comprendre, quand vous arrivez dans ce centre Emmaüs, il est à Paris, c'est ça ?
Oui, il est dans le 19e, au métro Riquet.
D'accord. Qui est là ? Il y a des compagnons, il y a des bénévoles. Qui sont les gens, les hommes et les femmes qui vivent là ?
Alors, c'est un lieu foisonnant. D'abord, il a une particularité, ce lieu, c'est que c'est un chantier d'insertion professionnelle. Donc, il y a des salariés en insertion, on les appelle comme cela, des gens qui viennent de la rue et qui sont là pour reconstruire leur parcours et pour être aidés à reprendre pied dans un milieu social et professionnel. Mmh. Il y a aussi tous les bénévoles qui viennent donner un coup de main. Et puis, enfin, les encadrants, ces travailleurs sociaux qui sont là pour gérer... Tout cet ensemble et aider les gens qui arrivent.
Alors ça, c'est l'environnement humain. Et puis, il y a ces objets qui arrivent, qui sont récupérés. Hein, c'est le principe d'Emmaüs et qui sont remis en état. Et vous racontez l'histoire de ces objets. Le premier, c'est un verre.
Oui.
C'est quel verre ?
Alors, c'est un verre qui a une histoire impressionnante et c'est la première qu'on m'a racontée. J'étais là tout au début, la première semaine, et puis une femme est venue vers moi en me disant « J'ai entendu dire que vous vouliez écrire des choses sur les objets. Ça tombe bien parce que moi, hier, j'ai apporté un carton d'affaires. Et puis dedans, il y avait un verre et est-ce que je peux vous raconter son histoire ?» Donc je lui dis « Évidemment, je suis là pour ça. » Et là, elle se met à me raconter que ce verre, elle l'avait depuis 30 ans. C'était une coupe à champagne. Et qu'elle a emporté avec elle quand elle a fui l'Iran. C'est une femme iranienne. Elle a fui l'Iran en guerre avec son fils de 2 ans. Et elle a emporté avec elle simplement une valise avec des affaires pour elle et pour son fils. Et un seul objet, ce verre.
Qui lui avait offert ?
Alors, il lui avait été offert par un homme qu'elle aimait, qui un jour, lorsqu'il marchait dans la rue, avait vu ce verre en vitrine et lui avait spontanément acheté en disant « Bien, un jour, on boira le champagne tous les deux au bord de la mer. » Et puis, du temps a passé, il y a eu la guerre, cette femme a dû quitter son pays dans lequel elle n'est pas retournée depuis. Et elle a emporté ce verre avec elle. Et elle m'a raconté combien ce verre représentait pour elle 30 ans de souvenirs, d'émotions et de passé. Et aussi, C'est un verre sur lequel il y a des petites étoiles qui sont gravées et elle m'expliquait avec beaucoup d'émotion combien, quand elle apprenait qu'un de ses amis d'Iran était mort ou assassiné, elle donnait à chaque étoile le nom de cet ami en mémoire.
Dans votre livre des objets de rencontre qui est publié aux éditions Joël Losfeld, Lise Beninka, vous donnez des noms d'objets aussi aux hommes,
oui.
Aux bénévoles ou aux compagnons d'Emmaüs qui sont là. Pourquoi vous avez fait ça?
Alors, il y a deux raisons. La première, c'est que j'ai voulu protéger leur anonymat, puisque pour certains, j'ai raconté leur parcours. Donc, je ne voulais pas qu'on puisse les reconnaître, tout simplement. Et la deuxième a été que le parallèle a été tellement fort entre ces objets qui arrivent chez Emmaüs un peu cabossés, ébréchés, et qu'ils vont réparer pour les remettre en vente, et puis ces gens qui ont eux-mêmes des parcours avec des fêlures profondes et qui sont chez Emmaüs pour recoller les morceaux de leur vie comme on peut recoller les morceaux d'une assiette méticuleusement. Ce parallèle était tellement fort que je me suis dit, ben voilà, je vais leur demander à chacun de se choisir un nom d'objet qui semble représentatif pour eux et qui ait un sens pour eux.
Vous pouvez nous en citer quelques-uns?
Oui, alors les premiers qui me viennent sont dans l'équipe encadrante. La première qui a choisi son nom, c'est Diadème. Elle m'a dit, bon, toutes les femmes sont des princesses, alors moi, ben, je m'appelle Diadème.
C'est joli.
Et puis, il y a
Vélo.
Oui, il y a Vélo. Alors lui, simplement, il m'a dit « Bon, ben, je choisis Vélo. C'est bien un vélo, non ?» Très bien. Et d'autres amusants, par exemple, Commode, qui lui, il s'occupe de la restauration des meubles. Il me dit « Moi, on me dit tout le temps que je ne suis pas Commode. Alors, je vais m'appeler Commode. »
Et Lampe aussi, Tempête aussi, c'est
oui,
qui Lampe Tempête?
Oui, je vous raconterai. Lampe Tempête, c'est moi qui lui ai donné son nom parce qu'il ne voulait pas choisir. Il ne comprenait pas trop pourquoi. Et je l'ai appelé Lampe Tempête parce que c'est un homme, il est éducateur de rue. Et il tend la main, il est présent, qu'il pleuve ou qu'il vente dans la rue pour tendre la main aux sans-abri et les inviter à venir chez Emmaüs pour reprendre pied, retrouver peut-être du travail.
Le premier mot qui vient quand on commence à passer un peu de temps dans ce centre, sur le rôle d'un centre Emmaüs, qu'est-ce que ça apporte d'abord à ces gens-là? L'espoir, c'est le premier mot?
C'est l'espoir, c'est une reconnaissance en fait, parce que quand on tombe bas comme ça jusqu'à la rue, je pense qu'on perd d'abord une image de soi et la reconnaissance de ses semblables. Et en fait, d'arriver là chez Emmaüs, où on est un peu choyé, repris en main, ça ressemble un peu à une grande famille, soudainement on se sent de nouveau exister. Je pense que c'est ça la première des choses. Ensuite, il y a évidemment le travail, un logement, parce qu'ils aident les gens à trouver d'abord un centre d'hébergement d'urgence, puis plus tard un appartement. Donc il y a tout ça, bien sûr, et aussi des premiers soins sur le plan de la santé.
On va parler des hommes, on va parler des femmes, on va parler des objets qui sont laissés dans ce centre Emmaüs et qui racontent une histoire. C'est votre histoire ce soir sur RTL.
Vous écoutez RTL.
Mes amis, au secours. Une femme vient de mourir, gelée. Il faut que ce soir même, dans toutes les villes de France, des pancartes s'accrochent sous une lumière, dans la nuit, où l'on lise ces simples mots. Toi qui souffres, qui que tu sois, entre, dors, mange, reprends espoir, ici on t'aime.
L'appel de l'abbé Pierre, février 1954, c'était sur Radio Luxembourg. Et dans la curiosité ce soir, avec Lise Beninka, qui a passé 9 mois dans un centre Emmaüs pour écrire un livre, Objet de rencontre, on partage l'histoire de ces femmes et de ces hommes à qui l'on redonne un métier et un espoir. Vous êtes donc, pendant une saison, 9 mois, dans un centre Emmaüs, pas n'importe lequel, ça s'appelle Emmaüs Défi. Pour en parler, on rejoint Rémi Tricard, qui est directeur insertion dans ce centre. Bonsoir.
Bonsoir.
On vient d'entendre l'appel de l'abbé Pierre. En quoi Emmaüs Défi, c'est un peu différent des autres centres de l'association?
Alors, Emmaüs Défi a été créé en 2007 dans la continuité du combat qui a été lancé par l'abbé Pierre en 1954. Mais effectivement, l'objectif d'Emmaüs Défi à Paris, c'est de apporter une solution à toutes ces personnes qui vivent dans la rue. En 2007, c'est la crise du canal Saint-Martin qu'on a tous suivi. Et Emmaüs Défi se lance en voulant aider les personnes qui vivent sur le canal Saint-Martin à retrouver une place dans la société, en plaçant le travail au centre de l'insertion. Et donc, ce sont ces personnes les plus éloignées de l'emploi qui retrouvent en fait une activité. Et ces personnes qu'on pourrait juger un peu inemployables, elles perçoivent pour la première fois une rémunération en échange de leur travail depuis longtemps. Et c'est de cette façon-là qu'elles retrouvent leur dignité chez Emmaüs Défi.
Parce que ça marche comment en fait ? Ils commencent petit à petit avec une heure, deux heures de travail, c'est ça le principe ?
Le principe effectivement c'est que la plupart des personnes qui sont dans la rue, elles aimeraient bien pouvoir retrouver un travail mais c'est compliqué. C'est difficile aussi quand on dort dehors d'aller travailler chaque jour sans avoir dormi dans un lit, sans avoir pu prendre une douche. Donc Emmaüs Défi a développé un dispositif qui s'appelle Premières Heures. C'est une marche en fait un peu qui manquait entre la rue et le contrat d'insertion classique. Parce que effectivement, elle permet de reprendre progressivement l'activité, donc d'abord 4 heures par semaine, puis 8 heures par semaine, en étant accompagnée par les personnes avec qui elles ont été déjà en contact. Donc ce sont des personnes qui font les maraudes dans la rue, qui les accompagnent pour travailler chez nous et qui leur permettent de reprendre confiance, de se reconstruire petit à petit, physiquement, moralement, et de retrouver un peu d'espoir. Elles se préparent de cette façon-là à reprendre de l'activité et quand elles sont prêtes, ça leur permet aussi le fait d'avoir une ouverture vers l'emploi, de retrouver plus facilement une solution en termes d'hébergement. Mmh.
Que font-ils ces hommes et ces femmes ? Ils réparent les objets qui sont récupérés, c'est ça principalement leur travail ?
Alors l'activité d'Emmaüs Défi, c'est l'activité qui est assez classique dans le mouvement Emmaüs. Donc ça commence par la générosité des donateurs, des particuliers, hein, donc les Parisiens en l'occurrence pour Emmaüs Défi, qui nous donnent les objets dont ils n'ont plus besoin. Donc on a des équipes qui vont les chercher avec des camions, ils vont faire des collectes à domicile. On a des équipes qui vont trier ces objets pour sélectionner ceux qui vont être utilisés, ce qui va pouvoir être revendu, ce qui nécessite des petites réparations. Dans certains cas, on va aussi pouvoir leur donner une deuxième vie en les transformant, en faisant de la revalorisation. Et puis ensuite, on a une activité de vente avec deux points de vente dans le 19e arrondissement à proximité du métro Riquet.
Et ça, c'est une fois par semaine, la vente, c'est ça ?
Alors, la vente d'Emmaüs Défi, c'est essentiellement dans la grande salle de vente qui se trouve rue Riquet et qui est le mercredi après-midi et le samedi toute la journée. Mmh,
d'accord, merci beaucoup Rémi Tricard. Vous fêtez d'ailleurs les 2 ans du bric-à-brac de la rue Riquet le 30 octobre prochain, je crois avec une vente spéciale de 18 à 21h. Merci beaucoup. Lise Beninka, pendant ces 9 mois passés chez Emmaüs, vous avez été en contact avec des compagnons, avec des gens en insertion, avec des bénévoles aussi. Il y a toutes sortes de bénévoles, tiens, pour en parler un petit
peu. Oui, il y a vraiment toutes sortes. Hein. Ça va du diplomate, à une femme qui travaille dans les assurances, ou dans le nucléaire même. Oui, il y a même une comédienne de la Comédie Française. Enfin, oui, au niveau des bénévoles, c'est assez très, très varié et justement très stimulant aussi pour les rencontres et pour les gens qui travaillent là.
Vous racontez même l'histoire d'un très riche bénévole. Qu'est-ce qu'il vous raconte ? Qu'est-ce qu'il vous dit ?
Oui, alors, simplement, c'est une histoire insolite. Il s'occupait, lui, de trier les livres qui arrivent pour les sélectionner par éditeur, sélectionner les livres de valeur. Donc forcément, c'est un endroit vers lequel moi j'étais attirée, puisqu'il y avait des livres. Et puis, on parlait comme ça régulièrement. Et puis un jour, il me dit, tiens, je vais te montrer des photos de ma maison, comme ça, de but en blanc. Et sur son iPhone, il me montre une magnifique maison avec la piscine à débordement, tout ça, en me disant, oui, c'est sur une île du Pacifique. Donc je le regarde assez ébahi, et puis il me dit, oui, tu sais, si je viens là chez Emmaüs régulièrement, c'est pour garder les pieds sur terre parce que dans le milieu dans lequel j'évolue moi, on est perché très très haut et on n'a plus aucune conscience de la réalité. Et il me dit donc je viens là pour reprendre contact et pour garder ce contact-là. Et puis à la fin de la conversation, il me dit aussi que des fois sur son île dorée, il s'ennuie un petit peu.
Et donc c'est beaucoup plus intéressant au centre Emmaüs dans lequel vous étiez à Paris. Ce contraste, il est quand même, c'est la vie en même temps.
C'est très vivant, c'est très fort aussi sur le plan émotionnel et donc forcément on y trouve aussi des choses pour soi même quand on est dans une situation favorisée.
L'émotion elle vient aussi des objets que vous choisissez de mettre en valeur et sur lesquels vous écrivez un petit texte, notamment il y a l'histoire d'une robe de mariée, vous pouvez nous la raconter?
Oui, alors j'avais choisi chaque samedi le jour d'ouverture au public d'exposer un objet que j'avais choisi parmi les cartons de collecte avec le texte qu'il m'avait inspiré, donc soit une histoire qu'on m'avait racontée, une vraie histoire, soit quelque chose de mon propre cru. Et là, un jour, j'arrive chez Emmaüs, il y avait des robes de mariée suspendues comme ça à des cintres, mais plusieurs robes de mariée. Et soudain, je me suis dit, oh là là, mais c'est terrible, si ces robes-là sont ici, c'est que ben la personne a divorcé, ou peut-être qu'elle est décédée, enfin, l'histoire me paraissait assez sordide. Et puis, en y réfléchissant, je me suis dit, mais au contraire, c'est extraordinaire, parce que ces robes-là vont pouvoir se marier plusieurs fois. Donc, j'ai écrit un texte qui s'appelle « La robe qui s'est mariée trois fois », où je raconte une robe qui a cette chance-là.
Et voilà, et du coup, la musique choisie par André Facetta, bravo, petite musique nuptiale. On est tous au mariage de cette robe qui s'est mariée trois fois dans votre imagination, on l'a bien compris. Des objets à qui l'on redonne vie, des femmes et des hommes qui retrouvent l'espoir. C'est dans un centre Emmaüs que ces histoires se passent, on vous les raconte ce soir sur RTL.
Vous écoutez RTL.
La communauté s'est développée autour de deux activités principales. Celle de la récupération, organisée par les compagnons et les bénévoles, et celle de l'association Emmaüs Vêtements.
La curiosité est un vilain défaut.
Si on aime, quand l'autre souffre, on a mal.
RTL. Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
La curiosité avec l'écrivain Lise Belinka qui publie des objets de rencontre aux éditions Joël Losfeld. Vous avez passé donc 9 mois dans un centre Emmaüs à Paris, un centre où des milliers d'objets sont récupérés, réparés, remis en valeur par les compagnons avant d'être vendus. Et avec ces objets, vous nous racontez des histoires, notamment celles de plusieurs hommes qui vivent ou ont vécu dans la rue. Leur solitude, leur isolement s'explique en partie, vous nous le dites dans le livre, par l'orgueil. Pourquoi ?
Alors, c'est particulier, cette notion d'orgueil. En fait, tout simplement, moi, c'est une chose que j'ai découverte en parlant là-bas avec les travailleurs sociaux et les éducateurs de rue, comme on les appelle. C'est-à-dire qu'on a un a priori sur les gens qui se retrouvent à la rue. On a tendance à se dire que c'est des gens qui n'ont pas de bagages scolaires ou professionnels ou qui sont isolés, qui n'ont pas d'entourage. Et ce serait la raison pour laquelle ils se retrouveraient là, isolés. Or, en réalité, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans ces postures et qui, au départ, viennent de milieux même parfois très aisés. Et qui, le jour où ils se trouvent face à un problème, ça peut être un divorce, enfin tout un tas de choses, ou la perte d'un travail, qui font que soudain ils vont basculer, eh bien ces gens-là ont du mal à demander de l'aide à leur entourage, justement parce que l'échec est mal perçu. Et donc quand on vient d'un milieu où l'échec est mal perçu, on n'ose pas avouer sa détresse, et là on préfère couper les ponts avec son entourage, ses amis, sa famille, ne pas appeler à l'aide, et là pour le coup la chute va très vite, parce qu'on n'a plus rien à quoi se raccrocher. Et c'est là où se place l'orgueil.
Vous racontez notamment l'histoire d'un homme qui avait vécu plusieurs années, je crois 5 ans, dans une cabine téléphonique. C'était quoi son métier avant ?
C'est un homme, on me l'a raconté, je ne l'ai pas rencontré, mais c'est un homme qui était avocat d'affaires et qui a eu un terrible choc dans sa vie, je ne sais pas lequel, qui a fini par habiter dans cette cabine téléphonique. Et c'est là où intervient un lampe-tempête qui, lui, sa mission, il fait partie d'un groupe qui s'appelle la Maraude. Ce sont des gens qui vont dans la rue à la rencontre de ces gens pour leur proposer de l'aide. Et lampe-tempête, c'est aussi pour ça qu'il a...
Alors lampe-tempête, pour ceux qui nous rejoignent là, oui, qui n'auraient pas écouté le début de cette interview, c'est un compagnon d'Emmaüs,
il fait
c'est
partie
un encadrant.
Encadrant,
c'est
voilà.
C'est un encadrant. Et alors, vous leur donnez des noms d'objets à ces, voilà, à ces personnes que vous avez rencontrées pour votre livre. Donc, Lampe Tempête a trouvé cet homme. Il le croisait régulièrement.
Il était dans son quartier, en fait. Et donc, chaque jour, il allait le voir pour essayer de lui proposer de sortir de cette cabine téléphonique. Et donc, de venir peut-être travailler même juste une heure chez Emmaüs pour reprendre contact. Et l'homme ne se sentait même plus capable, en fait, de se lever pour sortir. Jusqu'au jour où cet homme-là, lampe-tempête, comme je le nomme, a réussi à le convaincre de le suivre. Et aujourd'hui, il a repris pied vraiment et il travaille en tant que conseiller juridique dans une association.
Grâce à Emmaüs.
Voilà.
Voilà, Emmaüs m'a sauvé. On ne peut pas souvent dire ça, en fait, parce que c'est fragile.
C'est très fragile et c'est ce qui est difficile pour les travailleurs sociaux et les encadrants, c'est que la rechute est toujours possible. C'est-à-dire qu'ils expliquent qu'on peut toujours aider quelqu'un à retrouver un logement, à retrouver un petit boulot, à avoir des premiers soins médicaux. Mais quand on se trouve confronté à un traumatisme, on peut achoper contre cette chose-là qui nous échappe, des choses émotionnelles très fortes que les gens ont vécues dans leur parcours, et là, pour le coup, contre lesquelles on ne peut rien. Et donc, la rechute est toujours possible. possible, et ça arrive souvent qu'une personne qu'on pense un peu sauvée, entre guillemets, soudain ne donne plus de nouvelles pendant des mois et on ne sait pas ce qu'elle est devenue. Donc ça, c'est difficile à vivre pour l'équipe.
Je voudrais qu'on continue, Lise Benica, de raconter l'histoire aussi de ces objets qui arrivent là dans le centre Emmaüs. Vous dites, faites la différence entre les objets morts et les objets vivants. Alors c'est quoi un objet vivant ?
Alors tout simplement, un objet vivant, c'est un objet qui nous fait ressentir quelque chose. Pour expliquer ça, dans le livre, je raconte simplement une anecdote d'une amie italienne qui a quitté l'Italie il y a quelques années. Et avant son départ, ses amis sont réunis et puis lui ont fait un petit Saint-Bernard en plastique en lui disant, voilà, c'est un porte-bonheur pour ton départ en France. Alors elle me dit, mais il est très vilain, ce Saint-Bernard, je le déteste, mais je ne peux pas m'en séparer. Il est sur mon étagère, je le regarde, je me dis, mon Dieu, quel objet affreux. Mais si je m'en sépare, c'est comme si je me séparais de ce porte-bonheur et de cette amitié qu'on m'a offerte. Donc, voilà un objet vivant, c'est-à-dire qu'il nous colle à la peau, on ne peut pas s'en défaire, et voilà, il nous suit, il nous accompagne.
Alors, vous racontez aussi l'histoire d'un objet, ou de plusieurs objets. Alors là, c'est surprenant, les couettes du Ritz.
Oui, j'adore cette histoire.
C'est quoi ?
Alors, ça, c'est Lucien, un salarié en insertion, qui me l'a raconté. C'est donc une histoire vraie. Le Ritz a fermé ses portes il y a quelques années pour des travaux de grande envergure. Je crois que d'ailleurs, il n'a pas réouvert depuis.
Pas encore. Donc, grand hôtel de la place Vendôme à Paris.
Voilà. Et ils ont donné toute leur literie à Emmaüs. Et donc sont arrivés là chez Emmaüs Défi toute une série de couettes en plumes d'oie, des magnifiques couettes. Et là, Lucien me raconte, quand on a vu ces couettes là, toutes douillettes, pour nous qui avons dormi dans la rue, moi j'en ai acheté une et je l'ai emportée dans mon foyer. Et puis le soir, je me suis dit, il y a peut-être une star qui a dormi dedans. Et aujourd'hui, c'est moi, Lucien, qui dors dans cette couette. Voilà, et des histoires comme celle-ci, il y en a énormément à entendre là-bas.
Peut-être a-t-il dormi dans la couette dans laquelle Brigitte Bardot ou Marilyn Monroe, qui sait, avait dormi. Il y a aussi un dessin signé Picasso.
Oui, alors là, ça reste un grand mystère un jour, parce que ça arrive, dans les cartons de collecte, on fait des découvertes fabuleuses. Et un jour, un dessin arrive, un portrait de femme au crayon, avec la signature de Picasso. Mais bon, vraiment, on la connaît tous en plus, cette signature, elle est marquante. Donc là, branle-bas de combat chez Emmaüs, tout le monde se réunit. « Oh, tu crois que c'est un vrai ? Qu'est-ce qu'on en fait ?» Donc ils décident de l'envoyer chez Drouot pour le faire expertiser. Et là, les experts de Drouot s'interrogent longuement, puis décident que, bah, en fait, ils peuvent pas se prononcer, ils n'arrivent pas à décider si c'est un faux ou un vrai. Donc, ils l'envoient à la famille Picasso, donc les héritiers. Donc, les ayants droit, là, font des recoupements historiques pour voir si ça peut être un vrai par rapport à une époque précise dans la vie de Picasso. Et la conclusion est que, ben non, c'est sans doute un faux. Mais généralement, dans ces cas-là, on demande la destruction du faux, parce qu'il ne doit pas rester dans le circuit. Mais eux acceptent quand même de le rendre à Emmaüs. Donc, Emmaüs
est
toujours
dans
le bureau d'un encadrant, dont je tairai le nom, il y a toujours ce tableau et son mystère avec...
Avec la signature de Picasso. Et d'ailleurs, on s'intéressera évidemment, avec la réouverture du musée Picasso dans quelques jours, à ce peintre génial. Son histoire est passionnante et ce sera l'objet d'une séquence dont la curiosité est un vilain défaut. Merci beaucoup d'être venu partager cette histoire. Lise Benica, votre livre « Des objets de rencontre » est publié aux éditions Joël Losfeld. Ça raconte donc une saison chez Emmaüs, puisque vous avez passé 9 mois dans ce centre de la rue Riquet à Paris. Merci beaucoup.
Vous écoutez RTL.